L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion. Et nous sommes en direct à midi et en rediffusion le soir à 18h du lundi au vendredi depuis la place aux foires du Fou. Aujourd'hui dans L'EM, on parle d'un insecte volant complètement identifié car il vit sur notre planète depuis très longtemps. Le plus vieux spécimen fossilisé daterait de plus de 180 millions d'années. C'est le symbole de la résurrection ou encore du feu solaire et diurne pour les Aztèques. On le retrouve aussi dans quasiment toute forme d'art de notre époque. Il est absolument partout. Et je veux bien sûr parler du papillon et plus particulièrement du papillon de jour. Si le papillon diurne fait partie des insectes les plus répandus et les plus connus dans le monde, certains spécimens sont voués à disparaître et font aussi partie de programmes de conservation. Stéphane Visa, naturaliste à Bretagne Vivante, est venu nous parler des papillons de jour qui vivent dans notre région et nous explique l'impact de l'homme sur cette espèce. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors comme je le soulignais en introduction, le papillon de jour fait partie de la grande famille des insectes et il représente même un ordre dans cette famille. C'est quoi un ordre ?
Alors, les insectes ne sont pas une famille, c'est une classe déjà.
Une classe.
Et c'est un système d'emboîtement qui a été imaginé par Linné au XVIIIe siècle. Et donc cette classe des insectes, elle est divisée en une trentaine d'ordres, eux-mêmes divisés en familles.
Ah,
voilà. Voilà, justement. Et donc, dans les, si on reprend les papillons, le terme exact de l'ordre, le nom exact, c'est lépidoptère. Ptère, ça veut dire aile, et lépido, ça veut dire écaille. Voilà, donc c'est des insectes qui ont des écailles sur les ailes. Et donc, dans cette famille, on va trouver, dans cet ordre, pardon, on va trouver plusieurs familles, dont la majorité sont des familles de papillons de nuit. Voilà, papillon de nuit et papillon de jour, c'est le même ordre. Et donc la majorité des espèces qui appartiennent à cet ordre sont des papillons de nuit. On estime qu'à peu près 85% ou 80% des papillons sont des papillons de nuit. 10%, les 15% restants sont les papillons de jour, sont regroupés dans cette famille de mémoire qui appartiennent toutes au même ordre des lépidoptères.
D'accord. Alors, combien d'espèces de papillons, donc de jour, vivent dans le Finistère, en Bretagne peut-être ?
Alors, dans le Finistère, on est à 77. Voilà, j'ai vérifié ça il n'y a pas longtemps, donc je me souviens du nombre. Et en Bretagne administrative, si on ajoute la Loire-Atlantique, on ajoute quelques espèces. En Bretagne administrative, on est à 85 espèces. C'est pas beaucoup en fait, hein, comparé d'ailleurs à d'autres ordres, à d'autres familles d'insectes, et même comparé à d'autres régions. C'est quand même des espèces qui aiment bien le soleil et pour lesquelles le climat océanique peut s'avérer être une barrière, quoi. Voilà, donc dans d'autres départements de France, par exemple si on prend les Alpes-Maritimes, j'imagine qu'on doit être autour de 200 espèces. Alors qu'il y en a 85 pour toute la Bretagne.
À cause de pourquoi le climat océanique est pas très très bon.
Ah bah il y a moins de d'ensoleillement, des saisons moins marquées, beaucoup d'humidité, tout ça.
Du vent aussi, j'imagine.
Voilà, tous ces aléas là liés au climat quand même très particulier de la Bretagne sont aussi dommageables en fait pour la pérennité de certaines espèces.
Alors, j'imagine qu'il y a des papillons qui sont sédentaires.
Oui,
ça existe aussi les papillons qui migrent.
Ah bien sûr, ouais. Oui, bien sûr. En Bretagne, on a un bel exemple avec un papillon que certainement tout le monde connaît ou tout le monde a déjà vu, qui s'appelle la Belle Dame, et qui est un papillon qu'on a qui pond sur les artichauts notamment, et toute cette famille là des Astéracées et qui ne fait pas son cycle en Bretagne, en fait. Donc, chaque année, les belles dames qu'on voit en Bretagne viennent des populations méditerranéennes. Et alors, l'espèce, en plusieurs générations, va monter vers le nord. Et ensuite, les chenilles des papillons, des belles dames qui pondent en Bretagne, meurent en hiver parce qu'il fait trop froid. Et elles se maintiennent, par contre, en Méditerranée. Et la Bretagne est recolonisée depuis la Méditerranée chaque année par un papillon donc qui vient du bassin méditerranéen. Il y a d'autres exemples.
Et ça ressemble à quoi, la belle dame ?
À la belle dame, ça fait partie de ce qu'on appelle les vanesses. Donc, c'est des gros papillons très colorés, avec un revers magnifique et des teintes rouges. Bon, c'est pas facile comme ça de le décrire, ouais. Mais
c'est gros comment c'est gros papillon.
Ça fait 7-8 centimètres d'envergure. C'est un gros papillon.
Ouais.
Oui, c'est un gros papillon.
D'accord.
Voilà, et qu'on voit arriver chaque printemps. Et par contre, le papillon ne peut pas faire son cycle annuel en Bretagne. Voilà, chaque année, c'est des migrants qui reconquièrent la Bretagne.
Alors, la Bretagne, toute la Bretagne ou
Ah oui, aussi... oui.
Ouais.
Ah bah oui, du coup, comme il est migrateur, on peut quasiment le voir partout, hein, même dans le centre-ville de Brest, où il est pas rare. Et certaines années, en fait, comme il fait son cycle complet dans le bassin méditerranéen, il y a des années où les hivers étant moins rigoureux, il y a beaucoup plus d'émergence d'adultes au printemps. Donc du coup, il peut y avoir même des invasions. Et la dernière, c'était en 2009 ou 2010 de mémoire, où on voyait carrément des grappes de belles dames.
Ah ouais.
Parce que l'année avait été particulièrement favorable, en fait.
D'accord. Alors, les papillons, on en voit un petit peu partout, mais est-ce qu'ils sont vraiment partout ? Ils acceptent tout type d'habitat ?
Les papillons, il y a 85 espèces. Donc, il faut savoir de quelle espèce on parle. Mais globalement, il y a des espèces peu exigeantes, généralistes, qu'on peut retrouver partout.
Ouais.
Et d'autres espèces beaucoup plus spécialistes, qui sont vraiment liées à un habitat très particulier. Et qui eux sont beaucoup plus localisés, quoi, voilà. Mais et globalement, si on prend l'ensemble de ce sous-ordre,
ouais.
C'est quand même des espèces des milieux ouverts, quoi, voilà. Et des lisières, donc ouais. Les prairies, les végétations de côte d'étang, les landes, les fourrés, les ronciers, etc. Mais plutôt des lisières, mais ils sont pas au cœur des boisements, quoi.
Ça existe des papillons qui sont spécifiques aux îles, qui rentrent pas dans le continent ?
Pour la Bretagne, je dirais non, parce qu'ils sont quand même connectés à des habitats. Ceci étant dit, avec quelques nuances, on sait qu'il y a un migrateur déjà que tout le monde connaît, qui s'appelle le monarque, qui est un papillon du continent nord-américain, qui fait des migrations jusqu'au Mexique, du Canada au Mexique, en gros. Il y a des fois quelques données qui arrivent de la Bretagne, de papillons qui sont déportés par une tempête et qui traversent l'Atlantique. Et cela, on peut les retrouver, et on les retrouve en général, quand on les voit, c'est sur les îles, parce que c'est les premières terres qu'ils trouvent après leur traversée de l'Atlantique, ou la côte, quoi. Mais voilà, donc il y a cette espèce-là, et puis il y a aussi deux espèces qui étaient certainement présentes ailleurs en Bretagne, mais qui aujourd'hui, d'après la connaissance qu'on a, ne se maintiennent que sur Belle-Île-en-Mer. Parce que Belle-Île-en-Mer, il y a un climat qui est très particulier, ouais. Assez méridional d'ailleurs pour la Bretagne, et plus les habitats qui conviennent, et donc ces deux espèces se maintiennent uniquement sur Belle-Île, et auraient, c'est toujours délicat hein, de parler, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour on retrouvera des populations, mais dans l'état actuel des connaissances, ils se maintiennent que sur Belle-Île, et ils ont disparu du continent.
Donc c'est des espèces qui sont extrêmement surveillées, j'imagine, qui font peut-être partie d'un protocole de surveillance.
Alors, en fait, c'est le groupe d'insectes, en fait, c'est le groupe d'insectes auquel on s'est intéressé en premier, parce que, oui. comme tu l'as dit en préambule, ce sont des espèces spectaculaires, jolies, on les regarde, on les observe. Ça a attiré aussi la convoitise de collectionneurs, donc on a des collections de référence du 19e siècle, contrairement à d'autres groupes qui sont moins étudiés. Globalement, les espèces, on les reconnaît sur le terrain, on n'est pas obligé de les prélever. Et du coup, tout ça fait que les connaît mieux que d'autres groupes d'insectes, quoi. Voilà. Et comme on s'y intéresse depuis longtemps, on a plus de recul, on sait quels habitats ils fréquentent, quels sont leurs cycles biologiques, etc. Et puis on sait aussi quelles espèces se portent bien, quelles sont celles qui se portent moins bien, quelles sont les menaces qui pèsent sur les populations, etc. etc. Donc on a bien défriché le terrain par rapport à d'autres groupes d'insectes qui restent moins étudiés et moins connus.
Ouais, et j'avais encore une question au sujet de justement des espèces en Bretagne. Il y a des espèces qui ont été introduites ?
Non, pas volontairement, en tout cas. Alors après, il peut y avoir à proximité de fermes à papillons avec des papillons tropicaux, peut-être des espèces qui s'échappent de temps en temps et on fait des découvertes, mais il n'y a pas de population installée. Les espèces ne peuvent pas se reproduire, en fait, ne peuvent pas faire leur cycle annuel comme en Bretagne, donc ils survivent pas. Ceci étant dit, il y a quand même une espèce qui a tendance à s'installer en Bretagne et qui est pas originaire du tout de l'Europe, quand même, mais c'est pas une introduction volontaire, c'est une introduction accidentelle. C'est un petit papillon marron qu'on appelle le brun des pélargoniums. Les pélargoniums étant le nom latin des géraniums de jardinière qu'on a sur les balcons, et certainement introduit au stade œuf ou au stade larvaire dans les géraniums ornementaux. L'espèce est observée ça et là, en général, à proximité des jardinières. Voilà. Donc il y a quand même cette espèce-là dont l'aire d'origine est plutôt à rechercher du côté de l'Afrique du Sud que de la Bretagne.
D'accord. Il y a aussi de drôles de papillons de jour qui existent. J'ai eu l'occasion d'en voir un pour la première fois l'année dernière en brassant un petit peu de lavande que j'ai devant chez moi. J'ai eu la surprise. Quelques minutes après, il y a un drôle de papillon assez épais, trapu, mais qui battait des ailes, mais très très vite, et qui se déplaçait un petit peu comme un colibri. Oui. J'ai eu la chance de pouvoir le prendre en photo et de trouver en fait son nom, c'est le sphinx colibri.
Oui, mais, le moros sphinx.
Mais en fait, ce papillon-là, c'est un papillon de nuit. Alors qu'est-ce qu'il faisait chez moi en pleine journée ?
Papillon de nuit et papillon de jour, c'est une séparation, une classification qui n'est pas scientifique. C'est d'usage. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il se trouve que la totalité des papillons dits de jour sont actifs la journée, mais dans les papillons de nuit, il y a quelques espèces qui sont actives la journée et qui vont polliniser en pleine journée au crépuscule. Et c'est le cas du morosphinx que tu as rencontré dans ta lavande, qui lui est un migrateur en fait. Et voilà, il fait pas son cycle non plus en Bretagne. Et donc c'est peut-être un morosphinx qui venait du bassin méditerranéen ou d'Allemagne qui a traversé les Alpes avant d'arriver dans ton parterre de lavande.
Ouais, parce qu'il a fait super chaud en plus l'année dernière.
Oui. Ah oui, c'est ça. Et en fonction de la chaleur de l'année, ils font des déplacements plus grands. Ils peuvent monter jusqu'au nord de l'Europe, voire en Islande. Des fois, ça traverse. Voilà. Donc il y a quelques papillons de nuit qui sont actifs la journée. Et qu'on rencontre qu'en journée, d'ailleurs.
D'accord. On parlait donc, alors que je ne savais pas, que le papillon était un pollinisateur, comme les abeilles. Alors du coup, ça ne marche pas pareil, c'est pas tout à fait le même travail.
Non, lui, il n'a pas de sac, en fait, où il va collecter le pollen, parce qu'il n'a pas de vie sociale, il n'a pas de ruche, il n'a pas de larves à nourrir, c'est pas un insecte social. Donc lui, il va chercher dans les fleurs le nectar, qui est le petit liquide sucré que fabriquent les fleurs pour attirer les insectes pollinisateurs, et qui est situé dans la base des corolles, et avec sa trompe, que tu as certainement remarqué sur le morosphinx, qui a une longue trompe.
Très grande, ouais.
Voilà, que les gens prennent quelquefois pour un bec et nous appellent en nous disant « j'ai vu un colibri ». Non, c'est souvent le morosphinx.
C'est ce que j'ai cru, moi, au départ.
Ben oui, on On peut confondre régulièrement à Bretagne Vivante, on a des appels de gens qui ont vu des colibris, on leur répond non, c'est certainement le Moreau Sphinx.
Aucune chance de trouver un colibri.
Non, enfin c'est pas encore documenté. Et donc je sais plus ce que je disais. Oui, donc il va récupérer le nectar et en se nourrissant, et bien malgré lui, il se fait coller des grains de pollen sur le pelage qu'il a sur le thorax, en fait. Et parce que si les écailles sont sur les ailes, le reste du corps est maculé de poils. Et voilà. Et donc le pollen se retrouve coincé dans ses poils et il le transporte de fleur en fleur. Donc il pollinise sans faire exprès. Et pas de façon aussi organisée qu'un hyménoptère, quoi.
D'accord. Alors, on a parlé tout à l'heure des écailles qu'avait le papillon sur ses ailes, on a parlé de sa trompe, on a parlé des poils qu'il avait. Il a d'autres spécificités anatomiques, le papillon ?
Il a quatre ailes, mais bon, ça, c'est le modèle de base hein, chez les insectes. Hein, un insecte de base a quatre ailes. Il a six pattes comme aussi les autres espèces. Non, le papillon de jour, en fait, on le reconnaît à ses grandes ailes pourvues d'écailles et puis à sa trompe. Ce sont vraiment les deux signes principaux caractéristiques.
Ouais. Ça voit comment un papillon ?
Bah, ça voit bien. L'adulte, pas la chenille. La chenille, elle vit sur sa nourriture, donc elle n'a pas besoin forcément d'y voir beaucoup. Mais l'adulte, lui, il est très sensible aux couleurs, parce que c'est comme ça qu'il repère les fleurs.
Ouais.
Hein, ce sont des signaux visuels. Et il faut aussi qu'il repère aussi les prédateurs. Donc il a des yeux à facettes qui sont très efficaces et qui lui permettent du coup de repérer les couleurs de jour.
Il y a certains papillons aussi qui ont des moyens de défense ?
Les moyens de défense, c'est quand même la fuite. Voilà, il y a aucun système d'attaque, donc ils sont très performants pour se laisser tomber en feuilles mortes, voire en pierre, et échapper comme ça à un prédateur. Les papillons de nuit, ils ont aussi d'autres techniques parce qu'ils sont plutôt confrontés aux chauves-souris. Donc ils ont d'autres techniques, notamment les poils en fait, qui emprisonnent un peu les ultrasons émis par les chauves-souris. Et voilà, ça leur permet un peu de pouvoir se sortir de situations périlleuses. Mais globalement, ils ont pas de toxicité, je crois pas, et pas d'autres techniques pour échapper aux prédateurs que la fuite et le vol, quoi.
Alors c'est de l'intox, les yeux qui seraient sur les ailes et puis qui s'ouvrent.
Ah bah ça, c'est de l'intox. Oui, c'est vrai qu'il y a ce système là que j'avais oublié. C'est particulièrement vrai par exemple sur le papillon de jour qu'on appelle le pan de jour, voilà, qui lui le pan du jour.
Il
a des ailes un peu bordeaux, ouais. un peu foncé, puis il a deux grosses ocelles, deux fausses ocelles sur les ailes, donc. Et du coup, quand un oiseau s'approche de lui, ou nous qui voulons juste l'observer sans vouloir le manger, mais quand un oiseau s'approche de lui, il ouvre les ailes assez rapidement et du coup, les ociels feraient penser à des yeux de rapaces nocturnes qui pourraient faire fuir le prédateur.
Ouais. On parlait des chenilles, c'est peut-être une question idiote, mais toutes les chenilles font des papillons ?
Oui. Oui, la chenille, c'est vraiment le stade larvaire du papillon.
Ouais.
Donc, les adultes pondent des œufs. De l'œuf, au bout de quelques jours à quelques semaines, sort une chenille qui, elle, va soit se développer dans l'année qui vient, soit passer l'hiver au stade chenille et se développer au printemps suivant.
Ouais.
Et pour pouvoir se reproduire, en fait, la chenille est obligée de se métamorphoser en adulte, sinon il n'y a pas de reproduction derrière, quoi.
Ça marche comment, alors, du coup, la chrysalide ?
Bah, en fait, le papillon, la chenille, lors de la dernière mue, se construit cette enveloppe qu'on a tous déjà vu et en tête, qu'on appelle la chrysalide. Et à l'intérieur de cette chrysalide, en fait, la chenille se liquéfie complètement. et se réorganise à partir de cellules souches qu'il y a déjà à l'intérieur de la chenille. Enfin, c'est très complexe. Et du coup, le papillon naît de cette réorganisation interne. Et chez certaines espèces, comme le bacaon, par exemple, un grand papillon que tout le monde peut-être connaît, c'est la chrysalide qui passe l'hiver. Le papillon sort de la chrysalide au printemps suivant, quoi.
D'accord. Donc on parlait, donc maintenant on sait quasiment tout sur le papillon. On a évoqué tout à l'heure un petit peu l'habitat. Et quand on a parlé d'habitat, on a parlé donc des prairies et on a bien compris que certaines prairies étaient un petit peu remodelées par l'homme.
Oui.
Même l'agriculture, je pense, il fait beaucoup.
Ah bah oui.
Alors justement, qu'est-ce qui menace les papillons aujourd'hui ?
On a fait un gros travail en 2017 là, sur les papillons de jour de Bretagne. On a édité un livre que je vous recommande chaudement, qui est l'Atlas des papillons de jour de Bretagne, en fait, qui est encore édité chez Locus Solus et disponible. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, les espèces les plus spécialistes étaient les plus menacées, et que les espèces les plus menacées fréquentaient majoritairement deux types de milieux. En Bretagne, ce sont les prairies dites naturelles et les landes plutôt rases. Voilà. Donc en fait, dès que ces prairies sont mises en culture ou drainées, ou le sol est trop travaillé ou amendé, dès qu'on utilise des produits phytosanitaires, dès qu'il y a un impact aussi sur les fleurs liées à ces prairies, et que du coup d'une prairie fleurie naturelle où il y a plusieurs dizaines d'espèces très nectarifères, on se retrouve avec une seule espèce majoritaire qui procure moins de nectar, forcément les populations de papillons déclinent. Et ces espèces liées aux prairies naturelles sont très menacées en Bretagne. Et du coup, et aussi sur les espèces liées aux landes, finalement, c'est les espèces qui utilisent des landes très rases, très pâturées, par exemple, qui ont de plus de difficultés à trouver des espaces encore corrects pour leur reproduction. Voilà, parce que les landes aussi, ce sont des milieux qui ont été notamment les landes dites secondaires, hein, à l'intérieur des terres, sont des milieux qui ont été façonnés aussi par l'homme depuis des milliers d'années, et qui, parce qu'elles intéressent moins ou plus l'agriculture moderne, ont été délaissées, du coup se transforment en forêt ou en soleil, les milieux se ferment et sont bien moins attractifs pour certaines espèces de papillons. Donc la conservation des prairies naturelles et des landes rases en Bretagne est une... est absolument essentiel pour la conservation des espèces les plus patrimoniales, en fait.
Alors, quelles sont justement ces espèces qui sont menacées ?
Il y a 40% en fait sur les 85 espèces qu'on a identifiées, il y a 40% de ça concerne 40% des espèces qui ont vraiment un statut de conservation défavorable.
C'est vraiment énorme.
C'est pas mal. Donc en fait, le c'est beaucoup. C'est pas mal dans le sens où c'est beaucoup, mais c'est pas bien du tout.
Non, c'est pas bien.
et donc, c'est important. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, les on voit toujours des papillons, mais les cortèges sont moins riches qu'il y a une époque. Et les prairies dans lesquelles les premiers naturalistes chassaient les papillons au 19e siècle, on ne les reverra plus. Ça, c'est... Et avec les densités qu'il y avait à l'époque, on ne les reverra plus. Ou dans longtemps, si on inverse le processus. Voilà. Alors, par exemple, dans le Finistère, il y a quand même 8 ou 9 espèces qui ont disparu suite au dernier recensement qui s'est arrêté avant les années 2000, donc sur 20 ans. Alors, je peux prendre comme exemple l'azurée des mouillères, qui est un petit papillon bleu, hein, qu'on appelle les argus ou les lycènes ou les azurés. Et lui, il est très exigeant parce qu'il fréquente des prairies un petit peu humides où pousse sa seule plante haute possible, qui est une gentiane, la gentiane pneumonante. La chenille, donc, il pond ses œufs sur la fleur. La chenille sort, perce la fleur et va manger la corolle. Et après, il faut qu'elle émet un miel-là et elle est transportée par des fourmis. Donc, il faut qu'il y ait aussi l'espèce de fourmi qui va la transporter dans la fourmilière où elle continue ses mues en se nourrissant du couvain des larves de fourmis. Et après, seulement, elle sort de la fourmilière pour devenir papillon. Donc, c'est un cycle qui est quand même très compliqué. Et dès qu'on a une action impactante sur un des trois chaînons du cycle, ben, l'espèce disparaît. Et clairement, elle a disparu du Finistère, cette azurée du mouilleur. Il se maintient encore en Bretagne, mais sur quelques sites très localisés.
D'accord. Alors, on a vraiment plus beaucoup de temps pour continuer à parler des papillons.
Évidemment,
ça passe toujours très très vite. Merci beaucoup Stéphane Visa de nous avoir présenté cet insecte. Et vous pourrez retrouver les interventions radiophoniques de Stéphane et de toute l'équipe de Bretagne Vivante sur le site de radioévasion.net.